Star Wars en direct. Vous est présenté en collaboration avec Mintinbox.net, Cyclon.net et StarWars-Holonet.com. Bienvenue à Star Wars en direct, Rebels.
Look, I work alone. How about a little less attitude and a little more altitude?
Le podcast de discussion et de commentaires sur la série animée Star Wars Rebels.
I need to be ready to take off or none of us stands a chance. If you care to blast one of those TIEs out of the galaxy, I don't think anyone would object. Shields down. Chopper, fix them.
My name's Sam. It's possible I may be a little late.
Wait, are you fighting stormtroopers?
What makes you say that?
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Star Wars en direct Rebel numéro 3. La première saison de Star Wars Rebel est maintenant terminée et nous allons y revenir tout au long de cette émission. Nous allons également évoquer la saison 2 en revenant sur les éléments projetés lors de la convention Star Wars Celebration Anaheim. Je suis Hervé Coiral et vous êtes également en compagnie de Henri Leventhal. Salut Henri.
Salut.
Et de Thomas Coulon. Salut Thomas.
Bonjour tout le monde.
Bon, ça va bien?
Ça va.
Du bon.
Comment allez-vous après
ça? Plutôt qu'on l'attendait, celle-là.
Ouais.
Ouais, personnellement.
Ouais, ouais, ouais. Surtout toi, oui, je sais. Ouais. Alors, comment allez-vous après cette convention Anaheim, là, avec tout ce flot d'informations et ces révélations?
Oh bah, honnêtement, il n'y a pas eu autant qu'on pourrait le croire, à part un petit peu sur Rogue One, mais sinon, c'est vrai. Bon, évidemment, pareil. À part pour l'épisode 7, évidemment, mais sinon, le reste, j'ai été un peu déçu des autres annonces. Honnêtement, surtout côté roman et comics.
C'est vrai qu'il n'y a pas grand, ouais. Pas grand chose pour ces supports, ces médias, ouais.
Alors, on est d'accord, mais alors, je suis partiellement d'accord avec toi, Henri, parce que, sur les romans et comics, certes, il n'y a pas eu beaucoup d'annonces, mais sur tout le média télévisuel, c'est-à-dire ça a jamais été aussi chargé de toute l'histoire de Star Wars, quoi.
Ah, il y a beaucoup de choses, effectivement, en audiovisuel, si on utilise ce terme.
Enfin, j'ai quand même envie de dire que c'est le média de base, c'est le média principal, enfin, c'est le meilleur, quoi, le meilleur média, non, Henri? Même si je sais que tu kiffes les romans et tout, c'est quand même c'est la base, quoi, qui réunit la musique, le visuel, tout, quoi, enfin.
C'est vrai. C'est vrai que quelque part, ça part de là, hein. Ça part de là, mais bon, il y a tellement de bonnes choses, sur papier aussi.
Ouais,
mais c'est surtout les choses récentes, parce qu'après, évidemment, on a eu des retours sur The Clone Wars encore et tout ça, mais ça s'est un peu passé maintenant. Et c'est vrai que Rebels, à part les diffusions, ils ont annoncé quelques trucs par rapport à la prochaine saison, mais c'est vrai que autour de ça,
on va en reparler à la fin. Oui. Mais rien que le trailer de la saison 2 de Rebels, putain, on a de quoi faire un épisode spécial, hein.
Ah bah c'est clair qu'on pourrait faire un épisode spécial comme on a pu le faire avec le trailer de l'épisode 7, hein. C'est le traité comme ça séquence par séquence, et on aurait pour une bonne émission une bonne heure et demie, je pense, hein. Il y a tellement d'informations dans ce trailer.
C'est pas faux.
Bien. Avant de nous lancer dans l'émission, donc sachez que vous pouvez retrouver toutes les émissions de Star Wars en direct sur starwars.direct et que je vous invite à les télécharger en vous abonnant à notre flux iTunes ou au fil RSS afin de recevoir les dernières émissions dès leur mise en ligne. Voilà.
Et partagez-les sur Facebook aussi.
Voilà, c'est ça.
Pour faire connaître un maximum de monde.
Tout à fait. Tout à fait. Partagez. Passons à la rubrique hyperespace.
Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark.
All right, stand by.
Voilà, nous allons maintenant traiter, j'ai complètement oublié le chiffre, mais je crois qu'il y avait que 6 épisodes dans cette deuxième partie de saison. Donc on va les traiter un à un, puisque nous avons une saison 1 de 13 épisodes. On aura beaucoup plus.
Vous voulez traiter Anaheim?
Pardon?
Non, c'était un jeu de mots pourri, quoi.
Oui, je viens de
traiter Anaheim, bon, enfin bref. Allez, vas-y, continue.
Oui, parce que dans cette saison, donc nous avons 13 épisodes. On en aura beaucoup plus dans la saison 2, mais on en reviendra en fin d'émission quand on en parlera. Voilà, donc on va commencer par l'épisode 8 de cette saison 1 de Star Wars Rebels. Donc un épisode qui s'appelait L'épreuve du Jedi, Path of the Jedi, où ça raconte, où l'histoire nous raconte les aventures d'Ezra qui doit révéler un très grand défi pour prouver qu'il est digne de devenir un Jedi. Pour ça, il doit pénétrer dans un ancien temple Jedi où il va devoir affronter ses plus grandes peurs. Voilà. Donc c'est un scénario de Charles Murray et réalisé par Dave Filoni, donc celui qui chapeaute toute la série. Qu'avez-vous pensé de cet épisode ? On est dans l'apprentissage Jedi pur et dur, là.
Très bon épisode, un petit épisode plutôt intimiste avec évidemment mise en avant de Ezra qui nous permet d'approfondir un peu plus son personnage tout en approfondissant en même temps celui de Kenan qui lui non plus n'a jamais vraiment terminé son apprentissage. Donc c'est vrai que c'est plutôt intimiste, mais c'est vrai que ça approfondit et ça fait avancer un peu l'histoire surtout pour donc Ezra, et c'est une bonne chose. Et puis il y a la petite apparition spéciale dont on parlera sûrement dans quelques instants.
Et toi, Thomas ?
Alors moi, je l'ai trouvé un peu mou quand même, hein, parce qu'on est quand même sur un huis clos. Alors certes, en fait, c'est un peu le passage obligé, parce que voilà, faut la fameuse épreuve. Hein, moi, ça m'a énormément fait penser à Dagobah, hein, quand Luke va sur Dagobah avec Yoda. Voilà, on essaye de surpasser sa peur. D'ailleurs, bon, bah, y a le petit clin d'œil à la voix de Yoda qui vient. Mais au final, oui, c'est obligatoire. Ezra, il avance quand même dans. Mais au final, quand on regarde entre le début de l'épisode et la fin de l'épisode, bon, bah, je suis rentré dans une grotte, je suis sorti d'une grotte. Enfin, j'étais un peu déçu. Et alors moi, quand je l'ai fait regarder à mes gamins, ils captaient rien, quoi. Ils disaient, ah bon, mais ils se sont fait tuer. Mais enfin.
C'est un peu l'épreuve, un peu de la grotte aussi, comme pour Luke, en fait. Hein. C'est son épreuve. Il doit savoir s'en sortir par lui-même en utilisant la force et rien d'autre. Et c'est un peu, pour moi, je trouve qu'il en sort grandi grâce à ça. Pour moi, je trouve que le personnage change.
Oui, non, mais le personnage, il évolue, puis c'est grâce à ça après qu'il va avoir son sabre laser. Hein. C'était le passage obligatoire. C'était une bonne transition. D'ailleurs, c'était bien de le mettre en milieu de, enfin, en reprise de saison, puisque il y a une deuxième étape. Hein. On voit bien, il y a deux étapes en fait dans cette saison. Et il est bien, quoi. Mais ouais, je sais pas. J'ai trouvé qu'il se passait finalement pas grand-chose. Moi, dans l'Empire contre-attaque, l'épisode de la grotte, gamin, ça m'a jamais fait. Je croyais que c'était un peu le moment mou, c'était le ventre mou de la série. Bah là, c'était la même chose. Enfin,
ouais. C'est sûr que je trouve. C'est vrai que c'est pas le genre d'épisode. Il y a un peu plus de profondeur, je trouve quand même. Et c'est vrai que les plus jeunes ne peuvent pas, peut-être pas forcément capter tout, capter la profondeur de cette épreuve. Pour les Jedi.
Oui, puis il est assez déstabilisant aussi dans la lecture du scénario, dans l'histoire, hein, comme tu le dis, à un moment t'as l'inquisiteur qui arrive, il tue pas, ils reviennent. Enfin, c'est vrai que pour un enfant, ça peut être complexe. Bon, même moi qui est un adulte, j'ai un perdu aussi un peu perdu mes billes, hein, dans l'histoire.
Et puis à un moment, donc il va aussi, il retourne dans le Ghost, et puis tous les autres, le juge mal, bon. Mes gamins, ils ont pas compris pourquoi ils sont méchants avec lui tout d'un coup. Bon, je dis ouais non, mais c'est parce qu'il a peur. Enfin, vas-y, à expliquer un truc comme ça, tu vois. Enfin, parce que toi, tu le comprends parce que t'es adulte, mais à des petits, enfin, tu vois, c'était typiquement, ouais, c'était pas, on n'était pas We Are Home, là, on va dire.
J'ai voulu donner. Oui, vas-y, Henri.
C'est vrai que c'est aussi intéressant de voir un autre temple Jedi qu'on avait déjà pu. Si je me trompe pas, on avait déjà pu en voir aussi un autre. Durant The Clone Wars. Et c'est vrai que c'est pas mal de voir ces nouveaux temples, à part celui en dehors de celui de Coruscant, qui montre un peu qu'effectivement les Jedi étaient vraiment présents dans toutes les galaxies.
Je vais tiquer encore un petit peu, hein, vous allez dire, il titille, mais enfin, globalement, moi, j'ai à peu près bien aimé. Mais c'est pareil, il y a tous les mecs, les Jedi, ils sont venus, ils ont tous calanché dans la grotte, tu te dis, putain, le nombre qui y est passé, quelque part, enfin, je veux dire, c'est presque dangereux de vouloir devenir un Jedi quand tu viens dans cette grotte. Les mecs, ils ont tous séché sur place, je veux dire, faut avoir le cœur bien accroché avant de se lancer, hein.
Oui, ça donne pas envie, hein, ça. à l'entrée. Hein. Mais encore une chance hein, que ce temple-là soit aussi sur l'Hôtel. Hein. Il se passe beaucoup de choses sur l'Hôtel, en fait. Tout est là. Hein.
C'est le deuxième centre de la galaxie après Tatooine.
C'est ça.
Mais sinon, avant de noter, justement, je sais que tu veux passer à la note, mais c'est vrai que je pense qu'on ne faudrait pas oublier de noter le petit caméo de Frank Oz à la voix de Yoda, d'ailleurs.
Oui.
Ce qui prouve bien, encore une fois, comme l'ont dit beaucoup de gens, que c'est un désir pour Lucasfilm de repartir sur des bases très trilogiques, parce que c'est vrai qu'il aurait rien ne les empêchait de refaire appel à Tom Kane pour faire la voix, lui qui faisait la voix déjà pendant tout Clone Wars, pendant beaucoup de jeux vidéo et tout ça.
Bon, moi qui ai vu de la VF, bon.
Ça change pas. Donc vous lui donnez Henri, tu lui donnes quelle note?
Nous notons sur combien déjà?
Sur 20. La dernière fois on avait noté sur 20. C'est vous sur savez 20. Moi c'est des formations professionnelles, je sais pas noter sur autre chose que 1, quoi.
Ah, j'ai envie de dire bon, un 15. J'ai bien, c'est vrai que j'ai bien aimé, comme j'ai dit, c'est vraiment l'épreuve pour Ezra qui le fait grandir, qui le fait rapprocher de sa du fait de devenir un Jedi, donc j'ai trouvé que c'était vraiment ça approfondissait un peu nos deux personnages et ça permettait d'avoir un épisode plus intimiste entre les deux, donc c'était pas plus mal.
Bon, après de mémoire t'as quand même la main lourde, Henri, hein. Généralement, on met les mêmes notes sauf que toi tu mets toujours deux points de plus, quoi.
Et toi, Thomas?
Oui, un 13 du coup, tu vois.
Ouais, je vais faire au milieu un 14 et encore j'aurais pu descendre un peu plus si j'avais pas cette impatience de voir la tête du sabre laser de Ezra quand même. J'ai attendu ce moment à la fin, hein, de savoir à quoi il allait ressembler. Nous passons à l'épisode 9 qui s'appelle La main gagnante, donc Idiot's Array. L'équipage du Ghost donc se voit contraint d'aider le contrebandier Lando Calrissian pour effacer une dette de Sabacc. Durant cette mission, ils vont devoir voler une étrange caisse avec un contenu pour le moins mystérieux. Donc voilà, donc le scénario est de Kevin Hobbs et la réalisation de Stewart Lee. Je l'ai pas dit sur le premier, au niveau d'audience, donc audience américaine, on est à peu près en moyenne sur du 550 000 téléspectateurs, excepté pour le dernier qui s'additionne avec 200 000, donc on est à 750 000 téléspectateurs à regarder cette série. Voilà. La main gagnante. Thomas, qu'est-ce que t'en as pensé?
Moi, je l'ai trouvé énorme, vraiment génial. Il est pas dark, il est pas. On pourra lui reprocher ce côté un peu Jar Jar Binks, hein, par quelques côtés un peu trop de comique, tu le comique. Mais franchement, j'ai trouvé ça génial. On a des repères avec la trilo originale sur Bespin, donc avec comment il a chopé sa mine de gaz, Lando. Bon, même si c'est un peu tiré par les cheveux, c'est pas un spécial origine, mais on retrouve notre Lando qui est très fidèle à la trilo originale. Encore une fois, Henri, tu disais les liens avec la trilo originale, là on est en plein dedans, donc il est très très fidèle. Donc ça, j'ai adoré. L'épisode est hyper rythmé. On a plein de bestioles. Et puis alors le cochon globe, quelle trouvaille, quoi. J'ai trouvé ça génial. Le truc qui gonfle. Moi, moi je les regarde avec les enfants quand le truc a gonflé et qu'il a bloqué tout le monde. On a pris une barre de rire avec les gamins. Mais vraiment, je me suis vraiment poilé. J'ai trouvé l'épisode le plus marrant. Et pour autant, il y a de l'action, il y a du fun, même le fait de ramener de vendre Hera, de l'échanger contre le cochon globe pour en faire une danseuse, ça respecte encore une fois la trilogie originale, référence aux danseuses de chez Jabba, donc ça j'ai trouvé ça vraiment vraiment cool, enfin vraiment de A à Z, vraiment génial. Et mon gamin, quand il a vu le cochon gonflé, donc il s'est pas bien parlé, hein, il a fait gros motata, et gros motata c'est les fesses, je sais pas pourquoi. Et du coup pendant une semaine je lui demandais, je vais regarder lequel, gros motata. Alors vraiment c'est l'épisode qui est resté. J'ai adoré cet épisode, vraiment cool, vraiment fun.
Henri.
Ben, c'est vrai que c'est sympa encore on fait vraiment la connaissance d'un Lando jeune et tout ça, c'est vraiment un peu l'épisode. Ça, c'est vraiment des rares épisodes sans lien dans la saison. C'est vrai que c'est sympa, mais après, j'ai l'impression que ça fait, comme on dit, ça fait vraiment fan service de faire apparaître tous les personnages de la trilogie originale au fur et à mesure. Est-ce qu'ils vont faire apparaître Han? Est-ce qu'on va savoir le Faucon Millenium quand ils l'ont perdu? C'est vrai que c'est un bon épisode, je le cache pas, mais c'est vrai qu'à j'ai trouvé un peu hors du reste de la saison. Donc c'est là que ça, j'ai été un peu déçu de ce côté-là, mais c'est, je pense, est-ce qu'on verra si, après, faudra voir la saison prochaine, si on retrouve peut-être Lando, ce qui est pas impossible, mais c'est vrai qu'ils ont complètement capturé à 100% le personnage, puis encore une fois, de revoir d'avoir le retour de Billy Dee Williams, ce n'était pas de refus. On n'a plus qu'à espérer qu'il apparaîtra dans l'épisode 8 ou 9.
oui, c'est un épisode qui est hors du fil scénaristique, de cette seconde partie de saison, mais effectivement je suis d'accord avec toi Thomas et puis Henri aussi, c'est très drôle, c'est rythmé, c'est ça se voit vraiment avec les enfants et on en rit énormément, on capte aussi un peu plus la personnalité de Lando dans sa fourberie, on voit qu'il est prêt à faire tout pour avoir ce qu'il veut,
faire du profit.
Ouais, faire du profit au détriment des autres. Donc,
c'est pas pour rien qu'il va récupérer la Cité des Nuages.
Ouais, c'est ça. Donc voilà. Donc, épisode.
Ouais, moi j'ai l'impression, je voudrais rajouter aussi que cet épisode, j'ai eu l'impression qu'il était, long dans le bon sens. C'est-à-dire que des fois, t'as des épisodes, tu te dis, il s'est pas passé grand chose, que là, il s'est passé plein de trucs finalement. Même si, effectivement, le fil conducteur n'avance pas, j'ai plein de souvenirs de plein d'étapes ils ont raconté plein de choses.
C'est sûr que pour moi et Rebelle, depuis le début, je trouve que les épisodes sont bien plus dosés, côté longueur que The Clone Wars. Hein. Pour moi, depuis le début, je trouve que Rebels, en 20 minutes, t'as un bon déroulement d'une histoire. Quand je trouvais toujours que dans The Clone Wars, c'était en 20 minutes, t'avais l'impression qu'ils voulaient raconter une histoire qui aurait pu en durer au moins 2 heures. C'est en 20 minutes, t'as un bon déroulement, t'as pas l'impression que c'est rushé et je trouve que t'as vraiment une bonne vitesse d'histoire correcte, le temps de dire bien, sans avoir l'air d'accélérer certaines scènes.
Puis des bonnes idées, je trouve vraiment des bonnes idées, quoi. Ça se mêle bien, c'est pas trop répétitif pour l'instant, je trouve qu'il y a des bonnes idées. Et puis alors, tu te dis Lando, ouais, ça fait fan service et tout, mais franchement, ça m'a pas gêné, parce que c'est pas un perso qu'on voit à chaque fois, on l'a d'ailleurs jamais vu d'habitude dans quoi que ce soit, si on le voit dans les Lego, mais ça compte pas, quoi, on le voit pas d'habitude, donc pourquoi pas qu'il le croise, franchement, moi, ça m'a pas gêné, des fois, je trouve qu'il y a trop de fanservice, mais là, non, là, j'ai pris, puis alors, les voir jouer au sabacc, s'il y a pas un jeu qui est mythique, quoi, à part le Dejarik, c'est ça, quoi. J'ai trouvé génial de voir une partie de sabacc avec les vraies cartes, quoi. Parce que je me suis toujours demandé, moi, quand je lisais les romans, Henri, tiens, toi, je te fais plaisir. Je pense à Dark Ben, hein, la fameuse partie de sabacc qui, pour moi, est culte, hein. Je me suis toujours demandé la tronche que ça avait. Les voir en vrai, quoi. Là, c'est vraiment, on les a vus. J'ai trouvé ça vraiment cool. Puis cette partie de sabacc rien que dans ce vieux bar miteux, j'ai trouvé ça génial. Même les plans qu'il y avait pour pas nous montrer Lando tout de suite, du coup je le savais parce que je me suis spoilé en allant sur internet, mais c'était vraiment bien amené, c'était vraiment génial cet épisode.
De toute façon, je crois que c'était pas difficile de se faire spoiler vu l'annonce qu'ils avaient faite autour son retour et tout le reste. Mais c'est vrai que pour moi c'est étrange qu'il tombe à chaque fois sur tous ces personnages de premier plan si facilement dans une galaxie qui est censée contenir des centaines de milliards d'habitants. C'est un peu pour ça. Et surtout de ce côté-là, comme pourquoi tout l'a.
Oui, non mais oui, mais oui, mais bien sûr. oui, bien sûr. Non mais je suis d'accord avec toi.
C'est surtout ce côté-là en fait. C'est plus ce côté-là qu'autre chose.
Parce que Chewbacca, ils l'ont croisé un paquet de fois aussi, que ce soit dans Clone Wars, dans les épisodes. À ce moment-là, oui, non mais je suis tout à fait d'accord.
Je trouvais que The Clone Wars avec Chewbacca, c'était un peu logique parce que c'était les Trandoshiens qui étaient des esclavagistes, donc ils ont pu le capturer,
à ce moment-là, c'était pas... comme ça, Henri, des Wookiees, il y en a pas 10 non plus sur la planète, ils ont choisi Chewbacca, quoi.
Je sais pas, c'est comme si
sur toute la planète, demain, les extraterrestres enlèvent quelqu'un, ils choisissent Henri Levental, tu vois, la probabilité que ça tombe sur toi, Henri, elle est faible quand même.
Mais je pense qu'il y a quand même moins de Wookiees sur la planète, où ils sont juste sur Kashyyyk, que d'humains dans la galaxie.
Oui. Peut-être, ouais. Alors combien? Pour cet épisode.
Qui passe en premier?
Allez, Thomas.
Moi, franchement, là, je donnerais bien un bon 15 ou 16, quoi.
Ah, bah, tu vois, j'étais au niveau 13, moi.
toujours 2 points d'écart. Non, moi, j'ai 15, 16, pour moi, un très bon épisode, quoi. Vraiment un des meilleurs, quoi.
Moi, je lui donnerai un 15, moi.
C'est vrai que mon 13, c'est surtout vis-à-vis au fait qu'il est un peu séparé des autres et que c'est un peu l'épisode léger et sans trop de conséquences avec la suite. Parce que moi, j'ai toujours été fan des choses, justement, qui pouvaient se rejoindre sur la suite des événements. Donc, c'est vrai que...
C'est Henri, il justifie, tu vois, il culpabilise. Remonte ta note, Henri. Laisse pas un 13, quand même.
Non.
Il y a un commentaire, puis c'est encourageant. Vous pouvez mieux faire du travail, mais vous pouvez vous améliorer, un truc comme ça. Quoi.
Bien, on passe à l'épisode suivant. Donc, l'épisode 10, qui s'appelait Vision d'espoir, Vision of Hope. Lors d'un entraînement, Ezra a une vision du groupe rebelle avec le sénateur Gail Travis. Peu après, ce même sénateur leur propose un rendez-vous sur Lothal, encore une fois. Une fois sur place, ils tombent tous dans un piège de l'agent Kallus. Donc un scénario de Henry Gilroy et une réalisation de Steward Lee. Voilà, donc un épisode qui là suit vraiment le fil scénaristique de la saison, avec l'apparition réelle, cette fois, du sénateur Gail Travis, qu'on a vu à plusieurs reprises dans des messages, ou en fond sur les écrans. Henri, t'en as pensé quoi, toi, de ces petits...
Pour moi, très bon épisode, ça c'est sûr, de A à Z, très bon. La vision de Ezra, la rencontre avec le sénateur, le chopper un peu assassin, on peut le dire, hein. c'est un peu un meurtrier, ouais. Ce gars-là. Ouais. Le fait qu'on retrouve un petit coup Zerléonis, parce qu'évidemment, je fais de plus en plus connaissance avec ce personnage à travers les petits romans jeunesse qui sortent sur ce personnage, donc c'est vrai que... Puis le twist à la fin que j'ai absolument pas vu venir, bon, même si c'est un peu logique, j'ai été pris par surprise, mais c'est vrai que pour moi j'ai trouvé que c'était vraiment un très bon épisode de A à Z. Et
tu pourrais nous préciser qu'est-ce que tu lis dans tes romans jeunesse, Henri, il raconte quoi de particulier?
En fait, c'est toute l'histoire autour de Zerléonis dans l'académie impériale durant qui essaie justement de rechercher sa fameuse sœur qui a disparu.
Mais les liens avec cet épisode qui pourraient nous aider justement à mieux comprendre...
Dans celui-là, pour l'instant, il n'y a aucun lien. Le seul lien, parce qu'en fait, le deuxième tome de la saga qui est sorti il y a un ou deux mois et rejoint uniquement l'épisode de Breaking Ranks, donc qui était en première partie de saison. Donc dans le roman, on en est qu'à ce point-là. Est-ce qu'ils vont parler de ce moment dans Vision of Hope, dans le tome 3 ou 4, je ne sais pas encore. Mais c'est vrai que c'était le seul lien que j'ai eu par rapport à la série Rebelle, c'était par rapport à l'épisode justement où Ezra infiltre l'académie en début de saison. Okay. Donc là, il n'y a pas encore de lien avec l'épisode donc 11. Enfin, le 11 ou le 10, je sais plus, suivant la façon de calculer.
Thomas.
Moi, en ce qui me concerne, j'ai bien aimé, hein, on est d'accord, hein, c'est un épisode sympa et tout. Ce qui est vraiment intéressant, c'est ce côté rébellion qui arrive, etc. Enfin, je veux dire, et puis dans l'ombre, quand on le regarde, parce qu'on les regarde en famille, ma copine elle m'a sorti, c'est le général de Gaulle. Ben, tu vois, elle a essayé de retrouver des. Et puis finalement, c'était pas le général de Gaulle, c'était un vendu. On peut se demander s'il a pas un lien avec l'Empire, on sait pas trop. Alors après, j'ai trouvé, c'était ça qui était un peu dommage. C'était un peu des facilités parce que franchement, que jamais personne se soit aperçu que toutes les factions rebelles croient en lui. Comment Fulcrum ou tous les autres parce qu'ils ont visiblement monté plein de factions. Hein, ils parlent de factions dans toute la galaxie rebelle. Comment ça se fait qu'à un moment les gens ont pas passé des messages ou n'aient pas averti que c'est bon, c'était une taupe quoi. Y a ça qui m'a choqué. Et puis alors l'autre truc, c'est qu'à un moment ils se font prisonniers par ce petit moustachu grisonnant. Il les tient avec un petit flingue en leur disant attendez, bougez plus les gars. Alors bon, visiblement c'est pas le méga soldat. Et que d'habitude ils sont entourés de 500 troopers avec des flingues. Ils leur sautent dessus, ils leur tapent dessus. Même le Zeb, il est capable de sauter et d'exploser un TIE fighter à main nue quoi. tu te dis voilà, il y a deux poids deux mesures. Et j'ai trouvé que c'était pas assez bien dosé. Et quelque part, j'ai trouvé qu'il y avait aussi quelques petites lenteurs, quoi. Dedans.
Ouais. Moi, je l'ai trouvé aussi très déséquilibré, cet épisode. Et j'étais un peu déçu que finalement, Gail Travis était simplement un vendu. Et j'aurais préféré que ce personnage amène vraiment quelque chose. Et que, tu finalement cette saison avec ce personnage là nous trimballe pas quelque part. Alors étonné oui plus ou moins, néanmoins ça oui ça m'a pas surpris tant que ça, et ça montre juste par l'intervention de ce personnage là et de sa situation que ils peuvent vraiment faire confiance à personne, et ça se voit un peu plus dans les épisodes suivants. Bon, honnêtement, je sais pas trop quoi en penser de cet épisode. Moi, sur ma note, par exemple, je donnerais un 12, voire
ouais,
un
11. Dans ces eaux-là, 12, 13, mais vraiment 12,
ouais, carrément,
12,
oui.
12, c'est une bonne note.
Mais ceci dit, il est très rythmé. Il y a de la bataille. Ça fait plaisir aux enfants. Puis j'ai pris mon plaisir aussi. Hein. Mais
autour de déçu, franchement, il m'a déçu. Pourtant, il y avait des idées intéressantes, mais comme toi, moi, j'aurais préféré que ce soit un vrai rebelle qui les amène dans le... Je sais pas, ça m'a semblé un peu, ouais, je sais pas, bizarre, quoi, enfin... Ouais. Ouais. Et pourtant, je comprends bien ce que t'as expliqué, que voilà, c'était pour montrer qu'on peut faire confiance à personne, mais... Enfin, j'ai trouvé mal fait, puis moi, j'ai pas trouvé très rythmé, justement, j'ai trouvé que c'était un peu loupé, puis on fuit devant l'agent Calus et trois soldats, alors que d'habitude, on leur explose la tête avec juste Zeb qui leur fonce dedans... Bon, je sais pas.
Ouais.
Bah, étrangement, ouais. Moi, c'est... Toi, qui est en train de justifier sa note, maintenant, hein? Parce que moi, comme je l'ai trouvé très bon, moi, je lui donne facilement un bon 17, hein. Moi, je l'ai vraiment...
Ah, t'as carrément, toi, 17.
Ah oui? Ah, moi, de A à Z, il m'a plu à 100%, hein, ça, c'est sûr, hein. Ah, bon, c'est sûr que c'est jamais très, très parfait, mais... Moi, l'action, le déroulement de l'histoire, la surprise du twist, et encore une fois, on a un épisode. Je suis presque persuadé qu'on verra le personnage comme il meurt pas dans une prochaine saison, parce que je pense qu'ils vont pas gâcher. Je pense qu'il a un certain potentiel qu'on peut encore continuer à voir.
Ah, il peut se retourner, hein, ceci dit. Hein. Ça peut être aussi dans l'écriture de cette saison, enfin de l'ensemble de la série. C'est qu'effectivement, Gale Trevis peut se retourner ensuite, voyant ce qui se passe et demande à ce moment-là à rejoindre la rébellion et la méfiance. Enfin, on voit bien que éventuellement dans ce cas-là, ça peut arriver aussi. Hein. Mm. Ok, nous passons à l'épisode 11. Donc l'appel de l'action, donc call to action. Donc là, on voit l'apparition donc du grand Moff Tarkin qui se rend en personne sur Lothal pour superviser la traque de nos rebelles préférés, donc Kanan et sa bande. Et pendant ce temps, les rebelles prévoient de pirater l'holonette impériale pour émettre un message à tous les habitants de la planète et d'ailleurs, pour qu'ils se soulèvent contre l'Empire. L'Inquisiteur ayant prévu leur plan, il leur tend un piège et parvient à capturer Kanan. Le scénario est de Greg Wiseman et de Simon Kinberg, et puis la réalisation est de Stewart Lee, comme dans l'épisode précédent. Thomas, t'en as pensé quoi de cette... Là, on rentre vers la fin de la saison, et on commence à avoir vraiment des grandes actions. On sent qu'on arrive à la fin, quoi.
Ce qui est cool aussi, c'est qu'on rentre sur un arc narratif qui est long. Donc du coup, si on les met bout à bout, finalement, on pourrait dire que c'est une trilogie d'épisodes. Ça nous fait presque un petit téléfilm d'une heure. Et du coup, c'est bien, ça clôt bien la saison. Alors là, encore une fois, référence trilogique, le fait d'appeler Tarkin, j'ai trouvé ça génial. Il est hyper ressemblant, hyper hyper flippant et charismatique comme il l'est dans la trio originale. Donc ça, c'est génial. J'ai trouvé que voilà, il y avait différents niveaux de lecture. Il y a, pour les gamins, moi mes gamins ils ont tout capté, et puis il y avait les côtés un peu plus pour les adultes. Il y a eu j'ai noté notamment un truc cool que j'ai trouvé, c'est que par exemple l'inquisiteur, bon bah voilà, il coupe la tête de deux généraux, c'était quoi leur grade,
officier,
voilà,
oui,
il leur coupe la tête parce qu'ils sont mauvais, voilà. Donc là on est sur un vrai méchant, quoi, c'est pas juste Grievous qui va se cacher quand les Jedi arrivent, voilà, le gars il envoie, quoi. Et puis ils ont pas hésité à les faire tuer, et même s'ils les avaient modélisés que pour quelques épisodes, voilà, contrairement à Clone Wars où on faisait durer le plus longtemps possible, là c'est bien. D'ailleurs, j'avais vu un commentaire sur l'agent qui est gros là et celui qui est tout mince, dans le Star Wars Insiders, hein, je fais un petit peu de pub pour Panini, mais où ils expliquaient que bah du coup ils avaient voulu montrer la diversité des silhouettes des personnages. Et qu'ils n'avaient pas hésité à modéliser, même si c'était beaucoup plus difficile de faire des silhouettes toujours les mêmes, pour montrer la diversité des personnages, même dans l'Empire. Et ça, j'ai trouvé ça très très bien. Et malgré tout, bah voilà, on les zigouille. Donc du coup, il y a ce degré de lecture pour les adultes qui nous disent « Ouais, c'est un vrai méchant, il coupe des têtes quand il est pas content. » Et les petits, comme c'est très suggestif, ils voient juste la lame derrière. Ils ont, moi, mes gamins avaient même pas fait gaffe, quoi. Donc c'est plutôt bien.
D'accord.
En plus, on parle stratégie. Donc du coup, quand ça parle stratégie, ben nous, c'est intéressant pour nous. Tu vois, Tarkin qui commence à parler des factions, de voilà, il faudrait pas que ça apporte de l'espoir pour les gens, etc. Faut nourrir la peur. Mais ça dure pas trop longtemps pour pas saouler, pas casser le rythme, et puis continuer de plaire aux gamins. Vraiment c'est top. Et à la fin, Kanan qui fait son combat contre l'Inquisiteur, on sent bien que l'Inquisiteur est plus fort. Et ça c'est bien. On a un vrai méchant qui ça le valorise quoi. C'est pas comme Grievous qui se prend des branlées à tous les épisodes et qui se barre en. Vraiment, ça fait plaisir d'avoir un vrai bon méchant. Et quand il arrive, ça fait flipper. Voilà, les gens t'y perdent. Et ça, c'est bien. Quoi. Vraiment cool. Et puis, vraiment plein d'action, plein de. Ouais, il y a de la tension. Il y a vraiment un épisode excellent. Henri va lui mettre au moins 22, quoi.
Non, mais je pense que c'est vrai que t'as à peu près un peu tout dit. Hein, de toute façon, l'apparition de Tarkin, qui est comme tu dis, à 100% bien. Bien dosé, bien réalisé et tout ça, l'avancée de l'histoire, Kanan qui est fait prisonnier, les apparitions du fameux droïde sonde aussi, de l'Empire contre-attaque qui est aussi qui est vraiment pas mal, l'infiltration et tout ça, c'est vrai que c'est un très très bon épisode de bout en bout. Donc tu as un peu tout dit, mais c'est vrai que là on a un début de fin de saison qui est vraiment énorme et on s'attend. On se dit que ce qui va arriver ne peut que réussi, ça c'est sûr.
Ouais, c'est vrai que bon, j'ai plus grand chose à dire avec vous deux, mais c'est vrai que le personnage de Tarkin est énorme et on ressent bien son caractère. C'est vrai que les deux têtes coupées par l'inquisiteur, c'est sur l'ordre de Tarkin. C'est on sent bien le côté assez machiavélique du personnage, même à la fin. Au niveau de la tour de transmission, au lieu de tenter de couper la tour ou le message par quelque chose, non, allez, on l'abat directement, on cherche pas, on fait pas dans la demi-mesure. C'est un personnage qui est fort et qui est assez machiavélique, ouais, je leur dis.
Et puis il y avait une vraie tension, moi. Du coup, en plus, on les voit à la semaine. Du coup, moi, mes gamins, l'épisode c'est fini. Et mon petit qui parle pas trop, il a fait oh non nanan et tout, donc il a bien compris qu'il lui arrivait un truc pas cool. Et ma fille elle me fait mais il va mourir Kanan ou ils vont pas le tuer quand même. Et du coup tu sens qu'il y a une vraie tension, que bon du coup moi enfin du coup nous on s'en doute qu'ils vont pas le désinguer, mais je pense que pour les gamins qui suivent vraiment cette évolution, moi ma fille 2-3 fois elle est revenue dans la semaine, on va voir là bientôt s'il est mort ou pas. Et du coup ça les inquiète un peu, quoi. Enfin, du coup, c'est qu'ils sont pris par le jeu du truc, quoi. Et je trouve ça cool, quoi.
Ouais,
c'est bien fait.
Ouais. Thomas, tu lui donnes quelle note, toi, à cet épisode?
Moi, je lui donnerais un 16 ou 17, quoi.
D'accord. Et toi, Henri?
Moi, je suis dans le 18.
Tu es dans le 18.
Voilà. De <tout. rire>
écoutez, moi, je vais lui donner un 16. Un 16, parce que je vais monter en note après. Donc, l'épisode suivant qui... Donc, on a... Les deux épisodes qui vont suivre sont vraiment dans la continuité, hein. La scénaristique, on est comme tu disais, Thomas, sur quasiment un épisode d'une heure et demie. Donc l'épisode 12, donc le titre, c'est les rebelles résolus, Rebel Resolve. L'équipage du Ghost donc font tout pour délivrer Kanan, décrivent de l'Empire, et apprennent finalement que Tarkin prévoit de transférer Kanan à la prison de Mustafar, prison où aucun Jedi n'est revenu. Voilà, le scénario est de Charles Monneret et de Henry Gilroy, et la réalisation de Justin Rich. Henry, qu'est-ce que t'en as pensé? C'est un épisode qui continue.
Toujours très bon, ouais. Ça c'est sûr, mais c'est marrant, j'ai trouvé qu'il se passait pas énormément de choses, parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'ils connaissent la localisation de Kanan à la fin de l'épisode, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il en faut 20 minutes, c'est pas non plus un des épisodes. Bon, il se passe à la fois beaucoup de choses sans trop de choses, mais c'est vrai qu'il y a de très bonnes scènes avec les walkers et tout ça, les deux bipodes et tout ça, et Visago, je crois qu'ils appellent le gars avec les cornes là.
Oula.
Qui vont voir non.
Je sais plus.
C'est Visago. Très bien.
Le contrebandier. Il y a des trucs marrants avec Chopper et tout ça, mais c'est vrai que je sais pas, je trouvais qu'il lui manquait un petit quelque chose pour vraiment être aussi énorme que le précédent et que peut être le suivant. Je trouvais qu'ils auraient pu un peu réduire le temps de cet épisode-là pour découvrir la localisation de Kenan. Mm-hmm. Je dirais juste qu'effectivement, encore une fois, Chopper le meurtrier. Hein.
Ouais, Thomas.
Bah moi, effectivement, dans la trilogie, j'ai trouvé que c'était peut-être le moins bon des trois. Ce qui est génial là, c'est de voir les bipodes là. C'est ATST, c'est ça, Henri?
Non, c'est ATST mais version précédente.
Des mini ATST quoi.
Voilà, donc je sais pas, je pense qu'il doit avoir une autre appellation, mais j'avouerais ne pas la connaître.
Du coup, ben j'ai trouvé ça cool, hein, cette bataille avec les petits, on va dire les mini ATST, on va les appeler ainsi. Par contre, des lenteurs quand même par rapport aux deux autres, ça casse un peu le rythme. Est-ce que c'est pas justement pour relancer la machine dans un autre sens? Il faut quand même qu'ils préparent le plan pour l'explosion finale. Dans un sens, c'est tant mieux, ils préparent leur bille pour la suite, et ça permet. C'est peut-être ce qui nous permet le fait que celui-là soit plus calme. D'avoir un truc qui explose au final quoi. Je pense que il est vraiment là pour faire la transition et puis installer les bases du suivant qui est extraordinaire quoi. Et oui, avec Visago, j'ai trouvé ça un peu lent, même si c'est sympa hein. Ah oui, t'es un Jedi, il lève la caisse, machin, bon, à voir une fois, c'est cool, c'est marrant, mais à revoir plusieurs fois, parce que moi du coup, on les regarde plusieurs fois, c'est un peu long. Un peu long. Ouais. Mais bon quand même hein.
Je suis d'accord avec vous sur ce. Si on prend ces trois derniers épisodes, c'est le moins intéressant. Mais comme tu disais Thomas, il prépare clairement l'épisode final de cette saison. Il met les balises un petit peu et les personnages en place pour la suite. Donc c'est vraiment un épisode transitoire entre l'épisode 11 et le final du 13. Mais ça se laisse voir avec plaisir et on sent les choses monter, et on sent que les choses se mettent en place et qu'on s'attend à un épisode final grandiose. Enfin, c'est ce que j'espérais à ce moment-là. Mais oui, clairement, je ne sais pas si je le reverrai celui-là. Bon, évidemment, si je dois revoir des épisodes, ça sera sûrement les trois derniers. Henri, tu lui donnes quelle note, toi?
Je donne un petit 16, même, moins fort que le précédent.
D'accord, Thomas.
Moi, j'aurais dit un petit 14, quoi.
D'accord. Alors, moi, je vais rester sur mon 16 d'avant. Et on va finir avec cette saison avec l'épisode 13. Donc, Galaxy en flamme. Donc, Fire Across the Galaxy. L'équipe entreprend, donc, de délivrer Kanan, prisonnier de l'Inquisiteur. Et en tentant de s'échapper du vaisseau de l'Empire, ils sont secourus par plusieurs vaisseaux rebelles. C'est alors qu'ils rencontrent leur sauveur, le sénateur Bail Organa. Fulcrum, on va donner l'identité, et dans la dernière scène, on apprend aussi que l'Empereur a envoyé un nouvel agent qu'on va également dont on va donner également l'identité. Si vous n'avez pas vu l'épisode, c'est un peu dommage. Scénario de Simon Kingberg et réalisation d'Eve Filoni, donc qui se réserve la fin de cette saison. Thomas.
Alors là... Mais moi j'ai trouvé, bah, évidemment, on l'a tous trouvé excellent, donc on va même pas le dire. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il y a d'excellent là-dedans? Bah déjà le rythme, et puis vraiment le gros coup quoi. C'est le lien avec les persos qu'on attendait, Ahsoka, on attendait de savoir quand est-ce qu'elle allait arriver. Le fait qu'ils arrivent à la fin, bah moi c'est vraiment ça, c'est vraiment le moment où elle arrive. Et tu te dis ça y est, on va passer à la phase 2 quoi. Et ça montre vraiment on a un vrai fil conducteur dans cette série et on voit l'histoire qui avance contrairement à The Clone Wars avec des étapes. Et il y a des étapes à l'intérieur de la saison et il y a même des étapes visiblement entre saisons. Et du coup, j'ai l'impression qu'ils savent vraiment où ils vont. On est sur Star Wars Rebels, ils ont annoncé une série courte avec quelques saisons et on sent vraiment qu'il y a une étape pour chaque saison. Et là, on sent que le virage, il est pris bien serré et que ça va attaquer deux fois plus sec dans la saison 2. Et là, c'est vraiment sympa. On retrouve le vaisseau qu'on avait, les vaisseaux de Bail Organa, là, qu'on retrouve d'ailleurs dans New Hope. Hein,
ouais.
Sauf qu'ils sont de coloriés bleu-blanc alors qu'ils sont rouge-blanc hein, dans New Hope. Ça, c'est génial. Et puis le fait qu'ils arrivent à la fin avec ça, c'est génial. Bon, bien évidemment, on sent l'arrivée de Dark Vador.
Ouais.
On a ce moment où le ending arrive avec la respiration de Vador sur Star Wars Rebels. C'est génial, quoi. C'est... Bon, j'ai eu des petits frissons, hein. Franchement, c'est génial. Et puis ça pète de tous les bouts. J'ai adoré aussi le. J'ai trouvé que c'était une excellente idée de peindre le TIE Fighter en orange bariolé. C'est propre à l'identité de Sabine et ça nous permet finalement de le suivre parmi le lot.
Oui, tout à fait.
Parce que un TIE Fighter au milieu des autres TIE Fighters, pour suivre l'action, c'était pas facile. Oui. Et là, au moins, au lieu de nous mettre un rond orange autour,
avec des flèches,
il est là. Ils l'ont peint, voilà, avec des flèches, ils nous l'ont colorié en orange, ça met de l'originalité, ça met du fun, et ça nous permet de nous repérer, enfin, c'est vraiment, j'ai trouvé ça très intelligent. Et puis le combat final est génialissime, quoi, vraiment, vraiment très sympa. Et puis l'inquisiteur, a priori, il est mort, mais c'est pas grave, ça avance, et du coup, voilà, c'est pas encore Kanan ou l'inquisiteur qui en réchappe, il y a un moment, ça avance, et les bastons, ça donne un final, et puis, bah, si l'inquisiteur, il est mort, même si c'était un méchant cool, c'est pas grave, ça avance, et ça, c'est génial, quoi. On sent vraiment, il y a du sérieux, ça frite, c'est dynamique, j'en ai pris plein la tête, quoi, hein. Vraiment, le combat est superbe, j'ai adoré aussi, après je vais m'arrêter, je vais en laisser pour les autres, mais, j'ai adoré tu sais, le pistolet où tu vois, même dans l'attaque, c'est pas juste, ils se mettent pas juste des coups, il y a de la tactique, quoi, c'est-à-dire que, ils tirent avec le pistolet d'Ezra pour faire reculer l'inquisiteur, après il met le coup d'épée, enfin, il y avait vraiment plein de idées, quoi, dans cette bataille. On rajoute des choses intéressantes, c'est vraiment top, hein. Moi j'ai adoré.
Henri, t'as des choses à dire encore après ça?
Ah bah c'est sûr que là, c'est vraiment le film, l'épisode à 100% à caractère trilogique, ça c'est sûr. On a le combat au sabre laser avec des enjeux intéressants. On a l'échappatoire d'un destroyer impérial. Il y a les rebelles pour venir nous les secourir. Il y a des T-Fighters. Il y a le TIE-F4. C'est vraiment à 100% trilogique. Puis j'ai bien aimé au début de l'épisode avec Sabine. Oui, c'est bien Sabine qui avec le petit clin d'œil par rapport à son petit court-métrage qu'on avait eu avant la saison 1, mm-hmm. quand elle faisait le petit court-métrage, elle faisait aussi sauter des chasseurs-tis. La réapparition du fameux chasseur-tis coloré qu'on croyait ne jamais revoir. Après le fameux épisode, bon, c'est vrai que c'est juste un petit détail par rapport à ça.
Non, mais c'est amusant.
C'est un petit clin d'œil. Comme quoi, même cet épisode-là n'était pas sans impact pour la suite. Comme quoi, mais c'est sûr, comme disait Thomas, le combat au sabre laser qui est énorme, mais c'est vraiment très trilogique de A à Z. Puis les enjeux sont énormes. C'est très sérieux avec la mort de l'inquisiteur et je pense qu'il est vraiment mort. Puis la révélation à la fin qui est vraiment énorme. Les images sont la photographie de l'épisode est excellente, puis les dernières images, c'est anthologique, on peut le dire. Ah hein, oui. Ça annonce que du bon pour la suite, dont on a justement eu un tout petit aperçu à travers le trailer diffusé à la célébration.
Elvador, qui a un côté très, vous savez, un dessin de Ralph McQuarrie conceptuel.
Ah oui.
J'ai trouvé, il ressemblait plus d'ailleurs à ce concept art que Covador du film d'ailleurs. Je sais pas si ça vous parle.
Ouais. Oui, non, effectivement, ils ont vraiment respecté le look de Vador par rapport au dessin de Ralph McQuarrie. Comme beaucoup de choses, et on en parlera après, mais dans la saison 2 aussi, ça va même au-delà. Ils vont de plus en plus loin dans le respect du monde, de l'univers créé par Ralph McQuarrie. Et oui, ça lui donne un côté certes plus cartoon. Mais c'est une allure très très intéressante. Pour le reste de l'épisode, moi je suis d'accord avec vous. On est clairement dans le vrai esprit Star Wars de la trilogie classique. On a des combats, on a des personnages, des vaisseaux qu'on connaît bien. Je suis d'accord avec toi, Thomas. Donc ça le fait d'avoir tagué le TIE Fighter permet de mieux le localiser dans l'ensemble des batailles. L'arrivée des rebelles aussi est quelque chose de c'est très jouissif en fait de voir tout ça et puis le combat final avec l'inquisiteur effectivement est monumental, enfin moi je ça fait partie des maintenant de mes combats au sabre préférés parmi ceux qui composent l'univers Star Wars et l'utilisation comme tu disais du sabre avec ce double avec lame et pistolet donne un. Enfin, ils en ont fait une très bonne utilisation pour la chorégraphie de ce combat-là et c'est vraiment très intéressant. Et puis aussi le fait que Kanan se commence à s'énerver quand il croit Ezra mort. Ça donne un peu plus de relief au personnage de Kanan qui semble vraiment osciller entre le bien et le mal à ce moment-là et on se demande si il est très proche de Luke en fait. Ça me rappelle un petit peu Luke Skywalker dans son combat dans le Retour du Jedi où il se bat contre Darth Vader où on sent qu'il s'énerve et puis en fait bon non, il est du bon côté.
J'ai envie de dire un truc, c'est que jamais dans The Clone Wars on avait eu des épisodes de ce niveau-là. Et je me rappelle que pourtant Filoni est toujours là. Et je me rappelle que bon, c'est vrai que The Clone Wars ça a été un peu clashé, mais je me rappelle que Filoni disait bah oui, mais je fais pas ce que je veux parce que Tonton Lucas est derrière et il dit qu'il faut pas faire comme ça. Et quelque part finalement maintenant, j'ai envie de dire maintenant qu'on est, c'est passé chez Disney, tout le monde dit ouah, fait chier, ça va être Disney machin. Bah franchement. si les films valent en niveau de film ce que cette série vaut et surtout cet épisode là vaut en termes de, enfin ils ont jamais fait aussi bien en termes de série télé sur cet épisode là je me dis si sur le film ils nous font la même chose, franchement on va en prendre plein le nez hein.
Oui, parce qu'ils dosent bien entre vision adulte et vision enfant, quoi. C'est exactement ça qu'on avait de la première trilogie hein.
Et en dehors de ça, c'est vraiment l'esprit Star Wars qui est là, quoi. Oui. C'est ce qui manquait justement dans Clone Wars, c'est tout ce qui était prélogie. Et là, ça y est, on l'a retrouvé. Et je me dis putain, s'ils sont assez fins pour le faire sentir dans un épisode télé, c'est évident que dans un film, ils vont y arriver, quoi.
Oh oui, j'espère bien. Henri, tu donnes quoi comme note à cet épisode formidable? J'essaie pas de t'influencer.
Ah bah je lui donne un bon 20. Hein.
Ah oui.
Allons-y hein, au maximum.
Parce qu'il peut pas mettre plus de toute façon.
Non.
Thomas, toi?
Ouais, non mais moi on est sur du 18-19. Ouais. Hein. Franchement, il est vraiment très très bon.
Ouais, il est très bon. Mais je suis d'accord avec vous. Hein. Moi je mettrais du 19, du 19 aussi. Excellente fin de saison. Qui présage de bonnes choses pour la
Carrément.
Saison 2. Hein, avec l'arrivée de Darth Vader évidemment. Donc beaucoup de choses ont été présentées.
J'espère quand même que Dark Vador ils vont pas le surutiliser. Bon. Parce que s'il vient, alors qu'il vienne triquer un coup contre Kanan, pourquoi pas, mais une fois, pas cinq fois dans la saison, parce que à un moment, je pense que Dark Vador perdra son, s'il l'utilise trop, il en perdra son charisme et le symbole de ce qu'il représente, quoi.
Ça reste, je pense que ça reste à voir quand même, parce que. Même Vador, s'il le réussit, je pense que même s'il l'utilise pas mal de fois, je pense qu'il peut garder son intérêt.
Oui, mais faut pas trop qu'il trique. Faut pas trop qu'il vienne se triquer contre Ezra, quoi, parce qu'il y a un moment, c'est bon, le gamin de 12 ans, s'il le tient, ça va plus, quoi.
Bah, a priori, d'après ce qui a été révélé par Dave Filoni sur cette saison 2, il semblerait que la relation entre Ahsoka Tano et Darth Vader, donc je rappelle pour ceux qui ne percuteraient pas ou je ne sais pas qui ne seraient pas au courant, donc Darth Vader, Anakin Skywalker, donc l'ancien maître.
Oh le spoiler.
l'ancien maître d'Ahsoka Tano, donc serait peut-être le cœur, voire quelque chose de crucial. Ça serait central, voire crucial dans cette saison 2. Donc ça serait intéressant. Et c'est vrai que je me rappelle qu'on en avait parlé. On en avait déjà un peu parlé à la révélation de Fulcrum, donc d'Ahsoka Tano. On s'est dit qu'effectivement, si l'arrivée de Darth Vader, bah, on pourrait avoir une relation. Et a priori, c'est ce que Dave Filoni aurait annoncé.
C'est peut-être ce qui pourrait lui faire retenir ses coups à l'arrière.
Possible.
Parce que faut quand même qu'en termes de force, il reste au-dessus de tout le monde.
Bah oui, bah oui. Donc cette saison 2, donc je voulais juste un petit peu la lancer. Donc cette saison 2 de Star Wars Rebels donc débutera déjà par un téléfilm événement d'une heure, c'est ce qui a été annoncé, qui sera diffusé cet été aux USA. Et puis les nouveaux épisodes arriveront ensuite. Donc le téléfilm d'une heure donc devrait être diffusé le 20 juin.
Bientôt.
Donc très 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 bientôt, oui. Et le début des épisodes suivants, ça serait donc cet automne, avec un premier épisode qui s'appellerait The Siege of Lothal, donc le siège de Lothal. pour ceux qui n'auraient pas compris mon anglais tout pourri. Voilà.
Le siège de l'Hôtel, c'est justement l'épisode d'une heure qu'on aura.
Ah d'accord, ok. Donc ça va pas être très clair sur les infos que j'avais. A priori, c'était vraiment donc séparé. Donc donc ce téléfilm d'une heure, donc ça serait lui qui s'appellerait le siège de l'Hôtel. Ok. Oui.
Donc, et mes avis que cet épisode, donc bien sûr, se concentrera sur l'Hôtel et sera un nouveau tournant pour dire ça y est, maintenant on sort de l'Hôtel, parce que Filoni, justement, je crois que c'était dans Star Wars Insider aussi que j'avais vu ça, disait que ils s'étaient concentrés sur l'Hôtel parce que c'était une petite faction qui se créait simplement et que ça aurait pas été très cohérent de les voir partir à plein d'endroits, mais que après ils voudraient les emmener ailleurs dans la galaxie. Et je pense que du coup il y aura le siège de l'Hôtel qui va être un moment, peut-être un déclic pour dire ça y est, faut qu'on aille plus loin, plus fort, hein. Du coup qu'ils aillent sur d'autres planètes, etc. Et je pense qu'il y aura un tournant un peu plus important, quoi, on va dire.
C'est-à-dire que l'épisode le 13 donc de la première saison amène les rebelles à vraiment la rencontre de notre équipe de l'équipe du Ghost, et donc du coup peut tout à fait les amener ailleurs cette fois-ci. Là, on était vraiment sur l'Hôtel en suivant nos personnages, mais là maintenant qu'ils sont vraiment liés avec la rébellion et les autres factions, donc effectivement on peut avoir d'autres voyages plus loin.
Il serait temps d'ailleurs, je trouve d'ailleurs.
Oui.
Je veux pas dire, mais je pense qu'il est temps qu'on parte un peu de l'Hôtel.
Oui, parce que c'est un peu nos moqueries déjà dans les épisodes précédents, oui. C'est qu'on est toujours à l'Hôtel. Ils découvrent un temple Jedi, c'est à l'Hôtel. Enfin, tout se passe là-bas. Et c'est vrai qu'on commence, on a envie de voir autre chose, c'est clairement.
C'est ça.
Donc dans ce téléfilm d'une heure, donc on devrait voir donc Darth Vader tenter d'éliminer la cellule rebelle de l'Hôtel, donc. Et devrait y démontrer ses pouvoirs assez importants. Une scène avait été décrite comme quoi il soulèverait un genre de tas de AT-ST soulevé juste avec une de ses mains. Donc on devrait pouvoir voir ses pouvoirs un peu plus importants.
Moi je me demandais d'ailleurs si les éléments qu'on voit dans le trailer sont pas essentiellement quasiment des éléments de ce fameux épisode introductif.
Oui, c'est pas possible.
Il y en a beaucoup. Je pense qu'il y en a beaucoup parce que le reste des épisodes doit être encore en production. Et que si on a quelques images d'autres épisodes, on doit effectivement, comme tu le dis, se concentrer sur ce grand téléfilm.
Et je pense qu'ils veulent pas trop non plus spoiler le reste de la saison trop facilement.
Oui.
Même, que ce soit même pour cette saison 1 de Rebels ou pour les Clones Noirs, je me rappelle quand t'avais un trailer, souvent les mecs teasaient les quelques premiers épisodes. Et justement, pour garder du teasing un peu pour l'avancement de la série, surtout qu'il y en a 22. Puis comme tu dis, à mon avis, ils sont loin d'avoir tout terminé, quoi.
Puis on sait très bien qu'en plus pour les séries télé américaines, souvent quand ils présentent la nouvelle saison, enfin les nouvelles séries avant les diffusions, souvent on a un trailer qui raconte presque l'épisode pilote entier et c'est tout. On sait pas très bien ce qui peut se passer ensuite.
Et tant mieux dans un sens.
Oui. Donc là, je pense que on a probablement la même chose pour Rebels.
Et du coup, moi, je me demandais comment on allait faire pour tenir jusqu'à cet automne. Et puis encore en plus jusqu'à décembre. Mais finalement, du coup, pour cet été, hop, on aura, tu sais, c'est un petit peu comme du Subutex, quoi, tu sais. T'as pas ta dose, allez, on te donne un petit substitut en attendant que ça recommence, quoi. Donc là, voilà, pour tenir cet été, on aura droit au téléfilm Rebels, quoi. Et franchement, je pense que ça va faire du bien.
Ouais. Donc là, on va pas rentrer dans l'analyse de la bande-annonce de cette deuxième saison, mais on peut déjà dire qu'on a le retour d'Ahsoka, on a donc forcément Darth Vader, et on a aussi le pirate.
Les clones,
oui. On a Captain Rex, apparemment, qui revient, Wolf et Gregor. Donc, eux, ils ont échappé... ils sont vieux, donc on les voit errer un petit peu dans leur ancien véhicule.
Ouais. C'est des retraités, et ils sont fans de camping-car, si vous avez
remarqué. Je savais pas percuté. Mais t'as complètement raison, oui, c'est ça, ouais.
T'as pas remarqué ça ressemble vraiment, ils font sécher leur linge tout.
Ouais, t'as raison, ça fait ça, ouais.
C'est le côté, mais c'est génial, ça. Et ça, c'est ce que j'adore dans Star Wars, c'est pas le côté propre, c'est le côté, tu vois qu'il a vieilli, qu'il date vraiment de l'ancienne époque. Et puis que ils l'ont aménagé pour survivre, donc ça c'est cool. Et puis en plus, ils ont respecté le fait qu'ils vieillissent plus vite.
Oui.
Ah bah, je pense qu'ils auraient pas pu l'éviter d'un autre côté. Hein,
oui,
pense
puisque oui, c'est vrai, c'est canon par rapport au film. Ouais.
Donc il y a aussi Hondo Onaka qu'on revoit également dans la bande-annonce
avec un nouveau design.
Voilà.
Et c'est vrai que en parlant de design, c'est vrai que j'étais un peu déçu par le design d'Ahsoka dans le dernier épisode parce que c'est vrai qu'on était tellement habitué à elle dans The Clone Wars et même à la façon un peu plus vieillie qu'ils avaient pu montrer à un moment lors de vision du futur un peu. C'est vrai que j'ai été vraiment surpris de son style là sur le moment.
Ouais, elle est plus âgée. Et c'est vrai que Clone Wars présentait quelque chose de, ou alors on s'est peut-être trop habitué sur Clone Wars. Hein, va savoir.
Oui, ah bah c'est sûr. Hein,
et puis les designs sont différents.
Oui, oui.
Même Hondo Onaka, tu remarques qu'il a changé.
Oui,
hein.
Bah oui.
Mais je les trouve mieux. Je préfère ce design-là que l'autre.
Onaka.
Avant c'était trop carré, je trouve trop cubique, je trouve.
Ouais. Mais ce que j'aimais bien dans Clone Wars, c'est ces textures un peu peinture, qui étaient assez agréables à l'œil.
Bon, on en a quelques-unes quand même.
Oui,
hein.
Oui. Juste pour revenir sur la saison, donc cette seconde saison va comporter 22 épisodes au lieu de 13. Donc là, on en a quasiment 10 de plus, donc on va pouvoir se régaler en espérant qu'il fasse ce qu'il faut au niveau scénario.
Ouais, c'est ça le danger. Ouais. C'est-à-dire que ce qui est le danger avec une saison longue, c'est que bah voilà, les gars, faut remplir et puis qu'on fait de la quantité au lieu de la qualité, quoi. C'est ça le danger.
Ouais. Alors on peut voir déjà dans le trailer et si on fait un recoupement un petit peu avec ce qu'a dit Dave Filoni pendant Star Wars Celebration Anaheim. Donc on a Darth Vader, mais dans la bande-annonce, on voit clairement que nous avons droit à également deux nouveaux Sith. On a un homme.
C'est pas des Sith. C'est des inquisiteurs.
Oui, des inquisiteurs,
c'est
pardon.
Ça, ouais.
Oui, tout à fait. On a donc un homme avec une mâchoire assez carrée et une femme très athlétique. Voilà, donc plus d'épisodes, donc plus de méchants. Est-ce que ça va pas être de trop? J'en sais rien.
Non, moi je trouve pas. Et non. Justement, ça nous fera des vrais méchants à qui on sait pas ce qu'il arrive, qui peuvent très bien se faire latter, qui peuvent latter et qui sont quand même moins forts que Dark Vador. Ça évitera qu'ils se confrontent tout le temps à Dark Vador. Et ça, je trouve ça bien.
Oui. Puis il y a plus d'épisodes, donc plus de méchants, c'est pas tellement gênant.
Oui, il en faut du méchant, ah oui. Hein, parce que et un truc que j'ai adoré en méchant, donc qui est pas un vrai méchant, mais c'est le ver là qui sort de la terre. Putain, ça a l'air génial, ça. C'est le gros ver là qui combatte là les clones. Mm. Là, on est dans du Star Wars, quoi. C'est une nouvelle bestiole, un peu à la Dune, j'ai trouvé.
Oui.
Ah, ça a l'air top, ça. Enfin, je veux dire, encore une fois, de la créativité, de la bestiole. Enfin, vraiment, on n'est pas que dans du space opéra. On est aussi dans de la fantasy, et c'est ça qui est bon.
Ouais,
quoi.
Ouais.
Qui sait, peut-être que comme Filoni est en train de faire de la suite à chaque fois, il récupère des trucs de Clone Wars. Peut-être qu'on va retrouver un peu ce qu'a fait Palpatine de la bête Zillow. Hein, qui sait, en parlant de créature. Ouais.
Oui, pourquoi pas. D'ailleurs, j'avais lu un truc qui dit, ou je sais plus où est-ce que j'avais entendu ça, que en gros, ben oui, il finissait son Clone Wars qu'il avait pas pu finir avant. Comme on lui a coupé l'herbe sous le pied, ben il dit bon bah d'accord, ben je le finis quand même, mais ailleurs, et que quelque part, ça c'est cool pour les fans parce que on était tous un peu frustrés de pas avoir la fin, ben finalement on l'a à travers ça.
Bah oui. A priori, donc il va vraiment développer des choses qu'il devait faire dans Clone Wars. Je pense entre autres l'explication avec l'apparition de Rex, donc des clones, justement de l'explication comment ils ont vu.
Qu'est-ce qui s'y passait à l'ordre
66, voilà, comment ils ont survécu à ça, et puis il parle même de faire une référence à Fives. Alors là, ça fait référence à un clone qui a eu droit à son épisode dans Clone Wars, si je me trompe pas.
Ça pourrait être presque bien, soit qu'il nous fasse un épisode spécial sur l'Ordre 66, soit qu'on ait des flashbacks,
ouais.
qu'on voit cet Ordre 66 de ce point de vue-là, quoi. Ça aurait été bon. Quoi.
Ouais. Et donc revenir sur ces fameuses puces implantées dans les clones pour cet Ordre 66.
Et puis le voir un peu plus, moi. Je me rappelle que quand ils ont sorti The Clone Wars, je me suis dit, ouais, génial, on va voir plus de détails sur l'Ordre 66. Bah non, ça c'est cool.
Justement. Moi, je pense qu'on aura plus d'informations dans cette série.
Oui, mais au-delà de l'information, moi, je voudrais voir comment ça se passe concrètement.
Ouais, ouais. On apprendra aussi, bon, bah, évidemment, plus sur les personnages principaux de la série. Donc, on en saura apparemment plus sur les parents de Sabine, sur les origines de Chopper. Les motivations profondes de Kanan à faire partie de la rébellion, et puis ainsi que l'exploration des côtés sombres et des faiblesses d'Ezra. Et puis aussi les.
Peut-être sur ses parents aussi, puisque du coup tout n'est pas dit sur ses parents.
Ouais, ouais, tout à fait.
Est-ce qu'ils, d'ailleurs, mes gamins, ils m'ont demandé, ils sont peut-être toujours vivants, ses parents. Dans un sens, ils n'ont pas écarté la piste.
Non. Non, non, ils n'ont pas écarté.
Et ce qui serait bien aussi, c'est d'en savoir un peu plus sur Zeb et sa planète qui a été éteinte, quoi.
Oui.
Ce serait intéressant aussi, ça.
Ouais, ouais.
Bah, c'est sûr qu'ils ont encore de quoi faire.
Ouais, clairement.
Oui, oui, ils ont, oui. Oui, parce qu'ils ont lancé pas mal de pistes. Oui, il y a de quoi faire sans tourner en rond, quoi. Ouais.
Et puis une des rumeurs donc les plus importantes est aussi celle qui a été évoquée, que Kanan sera le personnage qui ferait le lien entre la revanche des Sith et un nouvel espoir. Donc il est une des questions qui a été posée à Dave Filoni et à l'équipe présente lors du panel de Star Wars Celebration Anaheim, c'était de savoir est-ce que Kanan et puis Ezra vont mourir, puisque ils sont censés Luke est censé être le dernier espoir. La question, la réponse de Dave Filoni donne que effectivement il peut se passer des choses et que pour l'instant il pouvait pas en dire plus. Je pense que si Kanan ou Ezra devaient mourir dans cette série, je ne montrerai pas cet épisode à mes enfants.
Ah oui.
Non mais moi je vais vous dire ce que je vois bien. Je les vois bien tous finir dans un spin-off, quoi.
Oui, c'est vrai.
Mais non, oui. Mais puis après tu t'en fous de l'acteur, tu vois, je veux dire, il a une tête de dessin animé, donc tu peux prendre n'importe qui au final. Oui. Tu lui fais un book, tu vois. Moi je les verrais bien finir justement tous, même Ahsoka, tout ça, dans un bon vieux spin-off où tout le monde se fait flinguer, mais on apporte quelque chose à la cause, quoi, tu vois, il meurt pour la bonne cause, mais puis que voilà, qu'ils les finissent en beauté, quoi.
Oui.
Tu vois, un épisode, un spin-off un peu tragique, tu vois, à la Empire contre-attaque, mais en plus dark, quoi. Ou à la Revenge of the Sith, mais plus dark.
Vous avez d'autres choses à apporter à cette émission au niveau de cette série, actuellement?
Non, pas encore. C'était très bon, on attend plus que la suite. Hein.
Ouais, c'est clair. Moi, je suis à fond. Et bah voilà. Et puis, du coup, il disait que ce serait 3 ou 4 saisons, peut-être 3, même 3, ça me va, du moment qu'après ils refont une autre série de la même qualité, quoi.
Ouais, écoutez, c'est bien parti, hein. Je trouve que là vraiment la fin de saison 1 était très très bonne. Le trailer qui nous est présenté nous donne à voir du très bon. En plus, un premier épisode, donc je ne sais pas si c'est cet épisode-là qui a été diffusé à la convention Star Wars Celebration. Mais les retours étaient plutôt pas mal. Donc,
Mais faudrait pas qu'il soit tenté par faire durer, quoi. Vaut mieux qu'il fasse court, même limite que ça se finisse à la fin de la saison 2, mais que ce soit bon, ouais. Plutôt que de vouloir faire durer, c'est ça le gros danger, de vouloir faire durer, d'en raconter des tartines, et puis au final de faire un truc chiant et avec lequel on va s'ennuyer. Et vaut mieux qu'il fasse court et qu'il refasse une autre série sur une autre période avec des autres personnages et que ce soit toujours aussi speed, aussi rythmé, c'est ça qui est bon. Ouais.
Bah je pense qu'ils vont, je sais pas s'ils auront encore les audiences suffisantes pour continuer, mais c'est sûr que s'ils continuent, je pense qu'ils veulent au moins continuer jusqu'au début de l'épisode 4, hein, je crois que c'est ce qu'ils avaient un peu prévu, si je me trompe pas.
Oui, mais d'accord, mais ils peuvent arriver à l'épisode 4 à la fin de la saison 2 s'ils veulent.
Je les vois pas sauter autant de temps quand même.
Non, mais j'imagine, non, mais je sais, mais j'exagère un peu, mais ouais. C'est quoi une audience pour un dessin animé moyen, quoi? Un bon dessin animé qui marche, c'est quoi l'audience normalement?
J'ai aucune idée,
mais je pense que quand même les chiffres qu'on a donnés là de 550 000 téléspectateurs devant un épisode sur une chaîne payante, hein.
Ouais, c'est ça, c'est que c'est Disney XD, c'est
oui,
ça?
Oui, oui.
C'est une chaîne qui est payante.
Oui, oui. Donc, du coup, c'est quand même pas mal. Mais, enfin, aux États-Unis, attention. En France, je ne connais pas les audiences. Et donc, je
pourrais pas dire.
France 4, à mon avis, ça doit dépoter. Et ils ont vraiment trouvé le bon créneau, quoi. Parce que ça passe au milieu des Tortues Ninja et des super-héros. Franchement, c'est vraiment le créneau qu'il fallait. Moi, je m'imagine, gamin, t'aurais eu une chaîne comme ça à l'époque. Enfin, je pense que j'aurais été content.
Ouais. Juste, je donne une dernière information que j'ai oublié de stipuler. On parlait de Billy Dee Williams qui avait repris sa voix pour Lando Calrissian, également Frank Oz pour Yoda. Dans cette deuxième saison de Star Wars Rebels, on a aussi le retour de James Earl Jones pour la voix de Darth Vader. Donc ils veulent vraiment respecter, comme tu le disais, je crois Thomas, respecter l'univers Star Wars en faisant vraiment revenir les personnes et les voix des personnages.
Et du coup, notre fameux Billy Dee Williams là, il a annoncé plusieurs fois qu'il attendait le coup de fil de Gigi pour savoir s'il pouvait revenir. Et donc du coup, on sait toujours pas s'il a été appelé ou pas.
Ah oui, sur les films.
Ce
oui.
serait cool qu'il revienne.
Bah, ça serait pas mal, ça à voir.
Bah, je pense que tous les fans seraient heureux, ça c'est sûr.
Parce que si les mecs font du fan service dans Star Wars Rebels alors qu'il a pas grand chose à foutre là, mais que dans la nouvelle trilogie, alors que là il a vraiment une de bonnes raisons a priori d'apparaître, et qu'il revient pas, on va se dire merde, qu'est-ce qu'ils ont foutu quoi, enfin tu vois.
Ouais.
Alors peut-être que du coup ils le disent pas pour l'instant parce que ils gardent peut-être la surprise.
Ah bah c'est sûr que s'il y avait une telle annonce, ils le feraient pas avant le début du tournage en tout cas.
Bah oui, mais là, du coup, le tournage, il est fait, donc, est-ce que...
Ah, pour l'épisode 7, tu parlais pour l'épisode 7, moi, je pensais pour les suivants.
Ah, peut-être qu'il viendrait pour les suivants. Parce que là, dans le 7, visiblement, ça va
être... J'étais dans le même objectif qu'Henri aussi. Je pense pas dans l'épisode 7, mais sur les autres, c'est tout à fait possible.
Ah ouais, qu'il le fasse revenir plus tard.
Et pourquoi pas dans les spin-offs, hein. Pourquoi pas non plus dans les spin-offs.
Oui, aussi. Ouais, bah, enfin, tout dépend quand se passent les spin-offs, parce que si c'est pour Rogue One, je crois qu'il va être un peu trop gonflé, hein, puis, pour l'idée, quoi.
Non, pour Rogue One, je crois que c'est pas possible.
J'espère que, par contre, qu'on verra le cochon globe aussi.
Bien.
Et je me posais la question. Oui. Ah oui, il y a aussi, les petites anecdotes, on est hors sujet, mais, sur le Star Wars Insider, il y a Warwick Davis, là, qui est W. Davis, là, qui dit que il va revenir dans la nouvelle trilogie. Mais qui savent pas s'il va revenir en on va dire quoi, il va faire des caméos ou s'il va revenir en Ewoks quoi. Moi personnellement, j'adorerais revoir Wicket.
je sais pas. Honnêtement, je ne sais pas.
Bon après, faut trouver la bonne raison de le mettre dedans quoi.
C'est vrai que les Ewoks étaient un peu décriés à l'époque, mais bon depuis on a eu Jar Jar Binks, donc il faut rester mignon maintenant. Bien. Bon voilà, c'est tout pour cette émission. Merci de nous avoir écoutés. Merci également à nos partenaires metinbox.net, sitclan.net et starwars-holonet.com. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les émissions de Star Wars en direct à l'adresse starwars.direct.com. J'allais dire une bêtise, donc à l'adresse de starwars.direct. Vous y trouverez Star Wars donc en direct, Star Wars en direct spoiler, toutes les autres émissions de Star Wars en direct Rebels, et également Star Wars en direct édition spéciale, dont je vous recommande les trois dernières émissions, enfin les trois dernières, une émission sur Star Wars Célébration Anaheim, qui a été donc coupée en trois parties, qui vous permet donc, qui vous aidera à faire le point sur cette convention, tout ça présenté par Sébastien et ses camarades qui sont venus l'aider à répondre à ses questions, voilà. Pour finir, si vous avez des suggestions, des commentaires ou des réactions suite à cette émission, n'hésitez pas à nous contacter sur studio@starwars.direct et sur les comptes Facebook et Twitter de Star Wars en direct. Voilà. À propos des réseaux sociaux, Henri, où pouvons-nous te retrouver sur le web ?
Alors, comme toujours, bien sur Facebook à Henri Levental, sur Twitter à l'usager Dalsk ou bien sur le site de cinéma que j'ai co-créé qui s'appelle Breaking News.
Eh bien, Thomas.
Et moi, donc, du coup, je n'ai qu'un Facebook depuis cette année, à l'identifiant Tom and Roses.
Très bien. Et pour ma part, vous pouvez me retrouver sur Twitter à l'adresse @RVQuaral, tout attaché. Voilà. Merci Henri, merci Thomas, merci de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous à une prochaine émission sur StarWars.direct.